Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, nos invités, la dessinatrice Florence Sestac et l'auteur et humoriste Albert Algout pour une BD en commun, ça s'appelle Le prof qui a sauvé sa vie. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Je salue Nicolas Caro, bonjour.
Bonjour Philippe Bondel.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour à tous.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, j'ai bien réfléchi tout le week-end, je vous veux dans mon équipe.
Il serait temps.
Oui, exactement, il serait temps, j'ai envie de dire. Hein. Ça fait quand même 7 mois que je fais ma rubrique face à des fauteuils retournés. Je suis content d'avoir enfin un peu de considération. En plus, ça tombe bien, je suis comme les candidats de The Voice. J'adore me faire juger par des gens mal habillés.
Non, parce que, je viens de comprendre.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme la prod demande aux jurés de porter les mêmes habits pendant les auditions, ouais, pour pouvoir les monter comme ils veulent, j'ai l'impression que ça fait un mois qu'ils ne se sont pas changés. Niveau hygiène, ça doit un peu coller sur les fauteuils quand même. Donc samedi soir, j'ai regardé The Voice, l'émission où tu peux voir ton boucher habillé en cuir chanter du Céline Dion à la guitare. Allez, premier candidat de la soirée, direct, ça part avec du lourd. Ah, excusez-moi Philippe, ça c'est la version CGT de The Voice. C'est comme The Voice, sauf qu'ils chantent tous la même chanson. Je crois qu'on est sur le tube du printemps. Non, dans The Voice version TF1, chaque candidat essaie de se démarquer. Déjà par le prénom. Hein. Même Nico, ça a l'air surpris.
Et il s'appelle Arcelane.
Arcelane, c'est ouais, son nom d'artiste ou
c'est son vrai prénom?
J'ai jamais entendu ce prénom.
Eh ben non, justement parce qu'il est extraordinaire, il commence par le prénom.
Ah bah écoutez, si c'est le prénom qui te prédestine, moi avec Jean-Luc, je vais pas aller loin. Hein. Et quand je vois qu'il y a dans le studio, Philippe, Nicolas, Olivier et Jean-Luc, on fera jamais un groupe. À la limite, une réunion de copropriété, mais il faut pas espérer plus. Il y a qu'Anissa qui a un peu d'espoir. Et encore, c'est un peu classique, Anissa.
C'est vrai. Hein,
parce que là, je vous ai mis les noms des candidats retenus samedi.
Malicia et Arslan, Esmé, Prisha, Fanchon, Dame et Silda.
Quand t'as eu un enfant après les années 80 et que tu l'appelles quand même Silda, c'est vraiment que t'as confiance dans le talent de ta fille. Hein, parce que si maintenant il faut presque avoir un nom de maladie pour faire un métier artistique, appelez-moi Cystite. Oh bon, sinon, on a eu Ryan aussi qui partait très philosophe.
Vivre un échec, c'est presque une bénédiction parce que quelque part, même si les coachs ne se retournent pas, j'aurais déjà gagné quand même.
Ouais, bah, bonne nouvelle pour Ryan, son vœu d'échec a été exaucé par les coachs. Personne ne s'est retourné. Et on a basculé dans la partie de l'émission que je préfère, quand ils essaient de justifier pourquoi ils ne se retournent pas. Tu sais faire des choses, toi.
Oui, mais pas chanter.
Bah ouais, il sait faire des omelettes, des sudoku, des PowerPoint. Hein. Mais il était venu pour chanter. Bah, pour Ryan, c'est carton plein. Il peut enfin retrouver Nico, ce qu'il attend avec ses proches. J'espère que ses copines trouveront les mots pour le réconforter.
Dans mes bras.
Bravo, beau gosse.
Dans mes bras, mon grand. T'étais beau, souriant.
Généralement, quand tu sors d'une audition de chant et que la seule chose qu'on te trouve à te dire, c'est « t'étais souriant », c'est pas bon signe. Hein, c'est comme après une rubrique humoristique, quand Philippe Vandel te dit « le son était bon hein, et puis t'as bien articulé ». Celle qui est très forte pour justifier ses non-retournements, c'est Amel Bent.
Ben, je m'excuse, depuis tout à l'heure, je regarde Vianney, je lui dis « il chante merveilleusement bien, c'est une certitude ». Mais trop bien.
Voilà, ouais. Si vous chantez trop bien, ne tentez pas The Voice. Comment on la connaît celle-là, hein? Moi ça m'a rappelé mon adolescence, quand je me prenais des gros râteaux. Non, c'est pas que j'avais pas envie, mais en fait t'es trop bien pour moi. Autre grand classique du râteau, avec Vianney cette fois.
Honnêtement, le problème, c'est pas pour être sympa et que tu partes avec le sourire. Il vient davantage de moi que de toi, parce que t'as fait une purée de prestations. Et...
c'est pas de ta faute, c'est pas toi, c'est moi. Argument auquel on ne peut pas répondre grand-chose. Hein. C'est un peu le 49-3 de l'amour. Mais bon, The Voice, c'est aussi des belles histoires. Comme quand Amel Bent reconnaît Fanchon, une candidate qu'elle avait déjà vue passer dans The Voice Kids.
T'as déjà fait The Voice, non?
Oui, j'ai fait The Voice Kids, la saison 6.
J'y étais?
Oui. Voilà.
Fanchon, je me souviens
mais
de toi.
Putain, mais
les... Eh ouais, c'est beau ouais, ça, c'est émouvant. Amel qui retrouve la petite Fanchon, 12 ans à l'époque, les retrouvailles magnifiques. Enfin presque, hein, parce que dans l'after, Nico, ça a quand même voulu préciser quelque chose.
Alors je me souviens de Fanchon quand elle s'était présentée à The Voice Kids et c'était effectivement Patrick Fiori qui l'avait prise dans son équipe. Je crois que vous étiez pas retourné.
Ah bon?
Ouais, je m'en souviens de toi, mais pas bien visiblement. Hein. Mais je voudrais finir sur une note plus positive. Parfois, il y a des surprises. Comme ce candidat, Philippe V, qui malgré un tout petit filet de voix réussit à se faire entendre en reprenant du Amadou et Mariam.
Mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie.
Oh mon Dieu.
J'ai adoré, je suis tellement content de voir ça sur TF1, dans The Voice. J'ai aimé ton énergie, j'ai même aimé tes petites fêlures, tes erreurs, tu m'as amené avec toi. J'ai eu un énorme coup de cœur.
Bravo Philippe Bordel.
Merci beaucoup, ça m'apprendra à chanter dans le micro. Merci beaucoup Jean-Luc, à demain. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure de 16h à 18h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern sur Europe 1.
J'aimerais comprendre la séquence qui vient de se passer.
Il s'est un peu chauffé sur Alban La Simone.
Oui.
Et il a chanté dans son micro.
Christophe Maé chantait cette chanson. Et je sais pas comment on s'est mis à chanter dessus, voilà. Ouais. Mais je pensais pas que ça allait être enregistré. Comment Tellement joliment dit. Bah tiens, Nicolas Caro, votre indispensable aujourd'hui.
Je vais vous parler d'un roman dont le héros est un pickpocket dans les années 60. Un pickpocket, c'est-à-dire un magicien.
Et j'ai la même question pour vous, Olivier Benkemoun.
Je vais vous parler d'un magicien, mais d'un étrangleur. L'étrangleur de Boston. C'est un film qui avait déjà été réalisé dans les années 60. C'est une histoire qui se passe dans les années 60. Il y a un remake qui est formidable, qui est passionnant, parce que c'est du point de vue, c'est vu du point de vue de deux journalistes, femmes, deux enquêtrices. C'est formidable.
Culture Média avec vos invités Culture, Philippe Vandel.
Bonjour Florence Estac.
Bonjour.
Dessinatrice, scénariste de BD, vous êtes connue pour votre trilogie Le Démon de Midi, qui est aussi devenue une pièce avec Michel Bernier, un film, et puis après ça a continué Le Démon d'après-midi, Le Démon du soir, ou La Ménopause héroïque. Vous avez dessiné plein de choses avant, plein de choses après, on ne peut pas tout dire, tout résumer. Votre actualité, cette bande dessinée, Le Prof qui a sauvé sa vie, c'est publié par Dargo, qui raconte les débuts professionnels d'un vieux collègue à moi, Albert Algou. Bonjour Albert.
Bonjour.
On a travaillé ici dans ses locaux à Canal+.
Ah oui, j'exige qu'on me restitue mon bureau d'ailleurs.
Le grand public vous a connu là, sur Canal, seul ou avec Carl Zéro, notamment les personnages de François ou du maréchal Ganache. Vous l'avez encore en bouche, le maréchal Ganache.
Oui, constamment, il est en moi, il me hante. D'ailleurs, ça va chier, je le sens.
Vous avez aussi écrit des scénarios de films, beaucoup de choses, des livres, des essais. Grand spécialiste de Tintin, c'est vous qui avez signé le dictionnaire amoureux de Tintin dans la très belle collection chez Plon. Mais j'en arrive à cette BD, Le Prof qui a sauvé sa vie. Comment est née cette BD, Florence Estac ?
Eh bien, Albert, on s'est côtoyé dans le milieu de la bande dessinée, tout ça. Et puis surtout, quand j'ai eu le Grand Prix d'Angoulême, à l'époque, le Grand Prix choisissait son jury. Et moi, cette année-là, j'ai constitué un jury qui était fait par 9 femmes et un mec. Et le mec, c'était Albert.
Quelle chance !
Il y a une chose que je n'ai pas encore dite, c'est que Le Prof qui a sauvé sa vie, Le Prof, c'est Albert. Vous êtes à la fois le scénariste et le personnage principal de cette bande dessinée.
Voilà, c'est autobiographique.
Voilà.
Et alors, mais comment c'est venu ? Pourquoi ? Comment vous êtes dit, Florence ? Je vais écrire une BD sur la vie de ce gars. Parce que moi, j'ai bossé avec vous pendant des années. Je savais que vous avez été prof à Haute-Savoie, mais j'ignorais tous ces détails.
Il valait mieux.
Et donc, il m'a raconté sa vie, effectivement, de prof avant de devenir clown à Canal+, en gros. Mmh. Et puis, j'ai dit, mais... Quand il m'a raconté quelques anecdotes, j'ai dit ça, il faut le raconter en bande dessinée, il faut faire une bande dessinée.
Mais
et voilà, c'est fait.
On vous voit comme ça avec votre tête de vieux, je le dis parce que vous êtes le premier à le dire.
Vous avez raison.
Mais ça démarre en Haute-Savoie en 78, vous avez 28 ans. Sur la page de Gargue, il y a des photos d'époque avec vos élèves.
Photos de classe.
Ouais, vous étiez plutôt beau gosse. Et même les filles disent, c'est une planche, les filles disent, il est pas mal le nouveau prof, il a les cheveux vachement longs. Et il y a un tendre
portrait. Il se la prête.
Ouais, il y a un tendre portrait de vos élèves.
Oui, bien sûr, parce que à l'époque, je croisais beaucoup de profs. Bon, il y avait des profs enthousiastes, passionnés, mais il y en avait qui étaient grincheux, qui étaient d'emblée tristes. Ah ouais, on n'en tirera jamais rien, ils ne lisent rien, ils ne s'intéressent à rien. La télé. Et en fait, ils passaient à côté de la fraîcheur, de la spontanéité, l'insolence qui est souvent en fait la traduction de ce qu'ils ne peuvent pas exprimer véritablement dans le cadre scolaire tel qu'il est, quoi.
L'insolence, il y en a même beaucoup. Je vais tout de suite arriver à Johan ou Johan, comment on prononce
Johan ou Johan.
Quel genre d'élève était-il?
Johan. Alors j'avais un élève, effectivement, dans une classe de... C'était en cinquième, Johan, un grand mec, déjà assez baraqué, un peu bizarre, un peu instable. Et un jour, il m'avait même piqué ma montre, parce que je laissais ma montre sur le bureau. Et une montre, d'ailleurs, qui n'avait aucune valeur. Une montre Camif, vous voyez. Mmh. Et donc la montre, je ne sais pas, je pérore, je vais au tableau, je vais dans la... Elle disparaît. Et donc, je vois que la montre a disparu. Je dis, écoutez, les amis... rendez-moi celui qui m'a piqué ma montre, il me la rend, je lui dirai rien, quoi. Ouais. C'est pas grave. C'est un moment d'absence, d'oubli et tout. Et en fait, Johan me restitue la montre. Donc voilà. Puis Johan, j'avais réussi à lui faire aimer la lecture, les aventures de moto, etc.
Sauf que vous l'avez retrouvé.
Et je l'ai retrouvé. Des années après, c'est quand j'étais à Canal, on recevait toute la presse, la PQR, et notamment le nouveau détective. Et je suis dans le bureau avec Decaune, avec Antoine. Et d'un seul coup, je feuillette, alors je vois une photo en couverture, et je vois à l'intérieur La Roche-sur-Foron, c'est le bled, la ville où j'étais prof, dans ce collège. Et là, je vois en couverture de détective, c'est il assassine la...
Le nouveau détective, il massacre la petite Agnès à coups de barre de fer. Et il est ici, l'élève d'Albert Algou.
Et là, j'ai dit, Johan,
il est là avec mon doigt.
Mais c'est Johan, c'était mon élève, celui qui m'avait piqué ma montre. Et il est en photo avec des menottes, c'est horrible.
Ah bah vous en êtes bien sorti, juste avec un vol de montre.
Ouais. Et ce qu'il faut dire, c'est que Florence, tout ce que je vous raconte de manière interminable,
c'est ce que dire.
Elle l'a résumé en une image très très forte, où le journal est affiché dans un kiosque à journaux. Je le découvre et je suis stupéfait.
Le planche, elle est là. C'est page 14, donc la planche 12 et 12. Oui. Et quand même, vous le dessinez à la Sestac. C'est quand même un tueur de petites filles, mais il a un gros nez en patate.
Oui, mais enfin, il n'a pas l'air sympa quand même. Hein. Même s'il a un gros nez,
Il a l'air un peu chafouin. Il a l'air un tout petit peu chafouin. Beaucoup d'autres élèves, on marque une courte pause. Je voudrais qu'on fasse un peu une recension de tout ce que vous avez vécu avec ces élèves. Qu'est-ce que ça dit de vous, de la personne que vous êtes devenue après? Puis on jettera un regard altier sur l'éducation nationale d'aujourd'hui. Et pas seulement, on parlera de la bande dessinée avec Florence Sesta qui fait une drôle de tête et c'est pour ça que j'aime bien vous recevoir. A tout de suite dans Culture Média.
Le prof qui a sauvé sa vie, c'est une BD à lire parue chez Dargo avec Albert Algou et Florence Sestac. Ce sont vos invités, Philippe Vandel.
Florence Sestac, elle a dessiné cette BD à la suite du fait qu'Albert lui a un peu raconté sa vie, ses jeunes années de prof. Albert est à la fois le héros de cette BD et le scénariste. Je disais, grande tendresse pour vos élèves. Romuald qui sait écrire et lire à l'envers.
Ah oui, lui c'était l'Oulipo à lui tout seul, il parlait à l'envers et donc je l'avais testé et il pouvait sortir des phrases très très longues à l'envers. J'étais absolument fasciné, il avait une capacité comme quoi il en savait plus long que moi.
Et puis il y a Joël.
Oui, il parlait comme ça. Alors Joël c'était certainement un autiste, j'aime pas le mot Asperger parce qu'Asperger était un nazi, mais Joël il était fabuleux, il était nul en tout, dans toutes les matières, sauf en français et en histoire. En histoire, il racontait la bataille de Waterloo, les mômes se groupaient autour de lui. Alain Decaux était un nain à côté et Stéphane Bern, un amateur. C'était extraordinaire. Et surtout, il avait un truc, il me disait « Vous êtes né quand, monsieur ?» Alors, je disais « 23 mars 50 ». Deux secondes de réflexion. « Mercredi !» Et c'était vrai, il avait un calendrier fabuleux dans le crâne. Et donc, il se faisait respecter à cause de ses vertus, parce que les enfants sont quand même cruels. Et je montre aussi la cruauté à certains moments.
Et ça a un écho avec votre histoire personnelle. Je pense évidemment à votre enfant.
Oui, après coup. C'est-à-dire quand j'ai eu un enfant qui s'est trouvé autiste, beaucoup plus grave que, hélas, que Joël, je me suis dit, le destin est quand même curieux. Quoi. Voilà.
Y a aussi des choses qui font tellement plaisir, impensables aujourd'hui, que Florence met très très bien en scène, c'est le harcèlement et votre réponse au harcèlement.
Aujourd'hui, je pense que je serais viré de l'éducation nationale.
Racontez.
Parce que bon, j'avais un élève, une élève arrive, monsieur, ils sont en train de tabasser Angel dans les toilettes, etc. Je fonce, effectivement, il y a quatre salopards, beaucoup plus grands que Angel, qui est en train vraiment de le martyriser. Et j'entends un truc, il dit, tu fais l'ours ou je te mets la tête dans les chiottes. Et là, je me jette sur le mec, je lui mets la tête dans les chiottes, vous voyez les chiottes de collège, hein, c'était quand même pas très beau.
Ouais.
Et je tire la chasse, le mec est trempé, etc. Et les autres, je les sors à coups de pied dans le cul. Ils auraient pu porter plainte, les parents, etc. Ils l'ont pas fait. Aujourd'hui, je serais viré. Mais Angel, du coup, il s'est ressaisi.
Est-ce que le harcèlement a arrêté?
Oui, il a arrêté radicalement. Mais à cette époque, c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas les menaces, la violence qu'il y a dans certains collèges. Donc, il ne faut pas que je joue les héros d'avoir fait ça. Mais je l'ai fait. Et après, je l'ai refait à la fin de ma carrière de prof. Et là, ça devenait très, très dangereux parce que j'étais carrément menacé. Là.
Je l'ai dit, vous avez beaucoup de tendresse pour vos élèves. Florence Sestac, vous dessinez avec beaucoup de tendresse. Comment était vous-même votre scolarité? Vous auriez aimé avoir un prof comme Albert?
Ah oui, moi, ma scolarité est une catastrophe parce qu'en plus, j'étais dyslexique. Donc à l'époque, c'était même pas reconnu, donc c'était une catastrophe. Et effectivement, j'aurais bien aimé avoir un prof comme ou Albert, ou aussi Daniel Pénac aussi a été prof. Et ouais. C'est un peu la même
famille.
Et vous
citez Pénac.
Ouais, oui, bien sûr, exactement. J'ai découvert que je faisais comme lui pour la lecture.
Racontez.
Bah, sur mon but, je me suis dit, être prof de français, si les gosses à la fin de l'année ne lisent rien, s'ils ne lisent pas pendant les vacances, s'ils ne deviennent pas des lecteurs pour une partie d'entre eux, à quoi sert de leur faire dédicter la grammaire? Ça ne sert à rien. Donc j'ai mis l'accent sur la lecture de manière considérable, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et de passion, surtout quand j'étais là-bas en Haute-Savoie. Après, j'étais un petit peu déçu, mais c'était indispensable. Et donc la lecture, c'était très important, et j'ai fait, sans le savoir, comme Daniel Pénac.
Je saute des étapes. Vous quittez l'éducation nationale parce qu'à la demande de Carl Zéro, qui vous était ami, vous demande d'écrire des textes pour Antoine Decaune. Vous arrivez à Canal+, mais la consécration de votre métier, presque de votre œuvre de prof, elle arrive par un ami à vous qui est Luchini, Fabrice Luchini, qui vous passe un coup de fil un soir.
Bah, c'est des années après. Je suis dans une traversée du désert un peu démoralisé. Puis là, je suis à l'Alpe d'Huez, un festival de cinéma. Et le téléphone sonne à 2h du matin, je rentre à l'hôtel. Allô, Albert, c'est Fabrice. Je suis à Nice, là, dans un taxi avec un gars qui va te parler. Il me passe le téléphone, je reconnais la voix. Et je fais, Dominique? Ouais, c'était lui. Ouais, je suis chauffeur de taxi, je parlais avec monsieur Luchini et il était là pour le voyage au bout de la nuit et je lui ai dit que j'ai lu le voyage. Comment t'as lu le voyage? Et le mec lui dit, Dominique, eh bien, c'est grâce à Albert Algou, vous le connaissez peut-être, il était à Canal+, et tout. Attends une seconde, je l'appelle tout de suite. Et là, vous voyez la récompense. C'est-à-dire des années après, c'était 14 ans après, un mec m'appelle dans la nuit et il a dit à Luchini que grâce à moi, il a eu le voyage au bout de la nuit en classe de 3e. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc j'avais réussi mon coup, au moins, avec ce mec et avec quelques autres. Ça, c'était la grande récompense, quoi.
Vous restez avec nous. Cet épisode est magnifiquement dessiné par Sesta. Quand j'étais là, j'étais dans la voiture. Ah ouais. Alors Luchini, quand même, vous ne l'avez pas fait un gros nez.
Ah si, comme tout le monde.
Ah, moins que le tueur, moins que l'assassin.
Ah oui, mais bon.
J'ai fait des comparaisons, moins qu'Albert, évidemment, que j'ai réussi à transformer en beau gosse, ce qui me surprend moi-même. Peut-être que lui aussi était surpris.
Ah, moi aussi.
Culture Média continue. On va parler de littérature, on va parler de cinéma, on va parler de Boston et on va parler de bande dessinée. Culture Média continue sur Europe 1. À tout de suite.
Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et avec vos invités, Philippe, jusqu'à 11h.
Nos invités, ce sont Albert Algou et Florence Sestac, le prof qui a sauvé sa vie. Je vous demanderai pourquoi c'est sa vie et non pas le prof qui a sauvé ma vie. Rien que le titre, je ne l'ai pas compris. Je me suis dit, ça va faire une bonne question pour la fin. Vous êtes toujours branché fait divers, Albert Algou?
Ah oui, bien sûr, plus que jamais.
L'étrangleur de Boston, ça vous parle?
Oui, bien sûr.
Et bah justement, votre indispensable, Olivier Menkemoun, vous avez vu cet enchaînement? J'étais sûr, Albert Algou, on lui dit, ouais. Ça vous intéresse? Il dit quasiment oui à tout. L'étrangleur de Boston.
Oui, comme alors, dirait Albert Algou.
Ouais,
oui,
c'est film, pas moi,
hein. Film visible sur une plateforme, alors la plateforme Disney+, mais c'est vraiment un bon film. Film disponible depuis vendredi, produit par Ridley Scott et porté par l'actrice britannique Keira Knightley. Ça vous parle, Keira Knightley? Non.
Moi non, mais je veux bien.
Le grand public la connaît pour son rôle de fiancée du pirate.
Ah oui.
Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes. Bon, et à Mazan dans le Vaucluse, on la connaît aussi, parce qu'elle s'est mariée là-bas. Et j'embrasse Mazan. Mais sinon, Keira Knightley joue le rôle d'une journaliste qui a vraiment existé, journaliste américaine, et qui a enquêté sur l'affaire de l'étrangleur le plus recherché d'Amérique.
Pour certains, cette ville stimulante incarne le chic et la prospérité. Ce n'est que récemment qu'elle est devenue dangereuse.
Cette ville dont il est question, qui incarne le chic et la prospérité, qui est devenue récemment dangereuse, ce n'est pas à cause de ses poubelles qui débordent ou de ses rats qui attaquent. Non, cette ville, c'est Boston. Et c'est Boston au début des années 60, lorsque la population va découvrir que, tapis dans l'ombre, quelque part, un assassin atteint tranquillement de tuer et de violer. Entre juin 1962 et janvier 64, Boston comptera 13 féminicides. D'abord des femmes très âgées, ensuite des jeunes femmes, toujours tuées dans leur appartement et sans qu'il n'y ait jamais effraction. Ce qui signifie qu'on le laissait sans doute rentrer et qu'il se faisait passer pour un réparateur ou un ouvrier. Dans un premier temps, appelé le fantôme de Boston, on lui donnera ensuite le surnom de l'étrangleur de Boston. Et c'est une journaliste qu'incarne Keira Knightley, la journaliste Loretta McLaughlin, qui sera la première à relier les meurtres entre eux.
Trois femmes ont été étranglées ces deux dernières semaines. Il y a un point commun entre tous ces meurtres.
Il est hors de question que tu couvres un homicide. T'es toujours à la rubrique Ardeville.
Alors vous avez compris que la rubrique Art de vivre dans les années 60, c'est là qu'on reléguait les journalistes femmes. Voilà, les affaires de police-justice et d'investigation, c'était la chasse gardée des hommes. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans cette version de L'Étrangleur de Boston. Au-delà de la description du fait divers, c'est comment deux journalistes, Loretta et sa consœur Jane Cole, vont s'accrocher et révéler une série de faits inédits mettant en cause des versions officielles, remettant en cause surtout le travail de la police de Boston qui a pourtant mené l'une des plus grandes enquêtes criminelles jamais menées aux États-Unis.
Police de Boston, main contre le mur.
On tenait ce type et on l'a tranquillement relâché.
En tout cas, ce sont Loretta et Jane qui révéleront le mode opératoire de l'assassin, comment il signe ses crimes en laissant un bas serré d'un double nœud comme un paquet cadeau autour du cou de ses victimes. Dans le film, il y a aussi la place qu'occupe une journaliste femme dans une rédaction en 1960, comment la police les considère quand elles enquêtent et ce que pensent aussi les maris de la détermination de ces journalistes.
Qu'est-ce que tu crois pouvoir trouver là-bas? Ça va s'arrêter quand, Loretta?
Et ça s'arrêtera en réalité au moment des aveux de l'homme, Albert de Salvo.
Ah, j'ai peur.
Albert de Salvo qui avouera tous les crimes. Il était ouvrier plombier, travail qui lui a permis de s'introduire en confiance chez ses victimes. On a quand même aujourd'hui des doutes sur ses aveux. On sait qu'il était schizophrène, il avait un dédoublement de la personnalité. Le film donne une explication d'ailleurs à la raison pour laquelle de Salvo aurait tout avoué. Un énorme contrat d'édition qui aurait mis sa famille financièrement à l'abri pour le reste de ses jours. Et ça ne s'est pas fait puisque de Salvo a été assassiné en prison de 6 coups de couteau. On n'a jamais retrouvé son assassin. Autre doute, en 2013, une enquête ADN va montrer qu'il n'est lié qu'au 13e et dernier meurtre. Alors que qui a commis les 12 autres? Je vous le demande, Philippe Vandel. Est-ce qu'il y a un assassin ou plusieurs assassins? Eh bien, vous n'aurez pas la réponse avec ce film, mais vous allez découvrir deux journalistes formidables, entêtés, malignes, combatives, intelligentes, qui ne se sont jamais contentés des évidences d'une enquête policière qui, aujourd'hui encore, laisse pas mal de points d'interrogation.
Votre monde sans danger n'est qu'une illusion.
Ça s'appelle L'Étrangleur de Boston et c'est à voir sur Disney+, la plateforme.
Ouais. Et il existait déjà un film sur cette affaire, un film de 68, réalisé à peine 4 ans après les faits, film de Robert Fletcher avec Tony Curtis dans le rôle de Albert de Salvo. Mmh. Albert de Salvo qui est également le sujet d'une chanson des Rolling Stones que vous connaissez sans doute, Midnight Rambler.
C'est pas vrai.
Le randonneur de minuit, oui.
C'est joyeux.
Bon, on va l'écouter autrement, ouais. Ouais. Maintenant, cette chanson.
Je colle ma lame juste sous ton cou, baby, et ça va faire mal. Bon, ça, c'est les Rolling Stones. Album Let It Bleed, 1969, qui montre à quel point, en tout cas, cette affaire de L'Étrangleur de Boston a marqué l'opinion publique à l'époque.
Ouais. Les deux journalistes femmes, elles existaient ou elles,
oui, elles, c'est, non, c'est, non, elles existent
ah,
vraiment.
Ce ne sont pas des personnages
fictifs.
Ce ne sont pas des journalistes. C'est pas une réécriture d'aujourd'hui.
Non.
D'accord.
C'est ça qui est intéressant. Ouais.
Ça vous a intéressé, Florence Sestac, Albert Algou? Déjà, il a eu peur que son nom soit
non,
cité.
Moi, j'avais entendu parler du Boston Crab, qui est une prise de catch où vous écartelez votre adversaire. Ouais. Le Boston Crab, mon frère me le faisait sur moi, c'était très douloureux.
Voilà, allongez-vous Albert, racontez-nous votre enfance, j'ai beaucoup souffert. Florence Sestac, comment passer après ce que vient de dire Albert Algou?
Ah, c'est difficile.
On va parler littérature, non. C'est Nicolas Carreau qui est avec nous, Culture Média, continue.
Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et avec le deuxième indispensable du jour.
On va parler littérature avec Nicolas Carreau qui nous emmène dans les années 60 avec une histoire de pickpocket. Je me suis dit, Albert Algou s'intéresse à tout. Les pickpockets, ça vous parle?
Ben oui, Aristide Philocèle qui est un personnage secondaire mais très marquant du Secret de la licorne dans Tintin et qui est un mec très 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 bizarre parce que pickpocket c'est la rétention, c'est bon, je m'arrête là.
Bingo, j'étais sûr qu'il allait
surtout
dire oui.
Ce qui est fascinant avec Albert Algou, c'est qu'il peut tout relier à Tintin. N'importe quel phénomène de la vie courante, crac, il y a un Tintin qui en parle.
Mais est-ce que c'est pas Tintin qui est relié à tout? Je vous laisse réfléchir, on va écouter Nicolas
à beaucoup de choses, ouais. Oui. Mais il en manque quand même quelques-unes.
Donc avec vous Nicolas, on part dans les années 60.
Exactement, avec le nouveau roman de Jean-Hubert Galliot aux éditions de l'Olivier, ça s'appelle Le Pickpocket des Champs-Élysées. On est juste avant le premier pas de l'homme sur la Lune.
69.
Bravo, je vous raconte. Ça commence avec Skip. Il est en train de lire François dans un bistrot, sur une grande table, parce qu'il aime bien s'étaler. Mais il ne lit que les brèves ou les petites annonces. L'une d'entre elles, justement, attire son attention. Perdu, 16 juillet après-midi, quartier Champs-Élysées, anneau argent avec inscription Catherine 659. Forte récompense, répondre au journal qui transmettra.
Et alors, en quoi ça le concerne?
Bah, c'est-à-dire que c'est lui qui a la bague, et pas parce qu'il l'a trouvée par hasard et qu'il s'est dit qu'il faudrait la donner aux objets trouvés, parce qu'il l'a volée. Skip est un pickpocket donc, mais un du genre très très bon, il connaît toutes les techniques, et attention, le pickpocket c'est la crème, C'est l'aristocratie des voleurs parce que, voyez-vous, comme dit Skip, un pickpocket possède un talent de prestidigitateur. Sans ce talent, il n'est qu'un voleur à la tire, autant dire un coureur à pied. Fin de citation. Il se trouve qu'en plus, une bague, c'est ce qu'il y a de plus difficile à escamoter. Mais là, il s'est trouvé sur les Champs-Élysées, donc face à un couple de grands bourgeois. Il a fouillé en une fraction de seconde la veste du type, rien. À son poignet, pas de montre. Et donc, bah, il a pris la bague.
Et donc, alors qu'est-ce qu'il va en faire de cette bague ?
Et bah, il va la rendre. Contre la récompense, bien entendu. Et il a bien l'intention de la négocier au prix fort. En plus, cette récompense, il a besoin d'argent pour rejoindre une certaine Marianne en Angleterre. On ne sait pas trop qui elle est au début. On sait qu'elle est belle et que Skip est amoureux d'elle et qu'il plante même une photo dans la chambre de son hôtel miteux. Il la regarde de temps en temps. Mais on change d'ambiance tout à coup. On se retrouve chez les Molineux, comme Grégoire Molineux, un homme d'affaires très riche. On suit sa femme Catherine. C'est la Catherine de la bague. On la suit dans sa vie bourgeoise, très guindée du boulevard Suchet à Paris. C'est très chic, très propre, c'est dans le 16e. Évidemment, les deux mondes vont se rencontrer. Mais surtout, surtout, en plus de l'intrigue, on se balade dans le Paris des années 60. Je n'ai pas connu, mais on sent que c'était exactement comme ça.
Waouh, le pickpocket des Champs-Élysées aux éditions de l'Olivier. Merci Nicolas
Carreau. Et on lit Histoire d'eau, c'est important aussi.
Ah oui, c'est ce qu'elle lit, elle. Oui.
En 69, est-ce que ça vous a tenté ? Est-ce que c'est le genre de littérature dont vous êtes friand, friande ?
Ah oui, oui, moi j'ai... Oui,
ah oui, oui, comme l'étrangleur de Boston. Mais il y a un pickpocket célèbre, c'est Philippe Petit, le fameux funambule. Il a écrit un bouquin qui est un précis du pickpocket qui est tout à fait remarquable. Ouais. Donc peut-être que l'auteur de ce livre s'est bien documenté, parce qu'il donne des conseils, Philippe Petit.
Lui qui a marché sur le câble entre deux immeubles.
Oui, ouais. Entre les Twin Towers notamment, et les tours de Notre-Dame.
Alors, ce n'est pas tout à fait un pickpocket, mais c'est quelqu'un quand même qui a fait une nuit de prison à Londres parce qu'il a volé un livre de Shakespeare.
Oh, l'enfoiré.
Il est dans ce studio. Ce n'est pas un enfoiré, c'est dans le livre. C'est Albert Algou. Non mais je ne savais pas ça de vous raconter. Il est en voyage scolaire, il pique une édition originale, l'intégrale de Shakespeare, il se retrouve
non, en pas l'original, un bouquin.
Oui, pas, non, pas l'original, l'intégrale, vous avez raison.
Sinon, c'était 15 ans de tôle, c'était pas 15 jours.
Elle est au musée. Racontez.
Ben oui, on est en voyage scolaire à Londres et puis l'amour du livre, et puis j'avais pas trop de fric à l'époque, quoi. Et je vois une édition de Shakespeare, banale, mais les œuvres complètes. Je me dis, il me la faut. Bon, je peux l'avouer, il y a prescription maintenant. Je la fauche, quoi. Et là, boum, on me saute dessus dans la rue, deux colosses. You are nicked, je m'en souviens très bien. Et je suis emmené, je suis emprisonné, quoi.
Non, mais la suite, c'est comment ça se passe ensuite que vous êtes professeur, vous êtes avec vos élèves.
Ben ouais,
qu'est-ce
là,
qui
je me dis, c'est fini, quoi. Mais je faisais que des conneries à ce moment-là parce qu'il fallait que je passe d'une estrade à l'autre. Ouais. C'était à l'époque, je commençais à Harakiri avec Choron, qui était une autre sorte de prof. Et je faisais que des bêtises, quoi, des grosses conneries. Donc je fauche ce bouquin, tout le monde fauchait à l'époque.
Vous n'avez pas été radié ?
Non, j'ai pas été radié parce que le directeur, le principal du collège a été sympa avec moi, il était au courant. J'étais dénoncé par une prof, une saloperie, mais le directeur, il était sympa, il m'a couvert, mais là, il fallait que je parte et c'est là que je suis entré à Canal. J'ai plus jamais volé de livre.
Il n'y a pas le nom de la prof et c'est encore plus dingue.
Non,
c'est
que
Florence Estac aussi a fait de la prison, mais pour d'autres raisons. Non, mais voilà. C'est quand même une drôle de mentalité que ce plateau aujourd'hui.
Ce milieu, oui. Europe 1.
Albert Algou et Florence Sestac signent ensemble la BD Le Prof qui a sauvé sa vie. C'est paru chez Dargaud et c'est la BD que l'on vous fait découvrir jusqu'à 11h sur Europe 1.
Alors on parlait d'Albert Algou qui avait fait de la prison, ce que j'ignorais, ce que j'ai découvert grâce à cette BD. Florence Sestac aussi, vous avez fait de la prison.
Oui, c'est pas beau non plus, non. Je sais, mais
c'est en 68.
Oui, c'était en 68. Là, c'est pas de ma faute, j'avais 18 ans.
Pour vol, vous avez piqué quoi ? Pour vol et pour destruction d'emblèmes nationaux.
Oui, exactement.
Ça, c'est pas très républicain.
Non, mais
qu'est-ce que vous avez détruit, Florence ?
Le drapeau français. On a arraché les drapeaux et on montait que le rouge. Voilà.
Et c'était une autre époque.
14 juillet.
18 jours de prison préventive dans le sud-ouest, c'est ça ?
Ah, je suis pas d'accord.
Quelle leçon vous en avez tiré ? L'époque a changé, parce que maintenant, on vole un drapeau, il n'y a plus rien.
Heureusement. Ça fait drôle de se retrouver en prison, on n'avait pas vu le truc arriver. Quoi. Et 18 jours, c'est très long. Très long.
Et Libé raconte que la presse locale vous présentait comme de dangereux révolutionnaires.
Propagandiste révolutionnaire.
Quel est resté,
comment ? Mais oui, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit.
Je continue, bien sûr.
Ouais. On n'a pas encore explicité le titre, Le Prof qui a sauvé sa vie, pourquoi pas ma vie ?
Alors c'est un clin d'œil à un ouvrage collectif qui est sorti au Cherche Midi après l'assassinat de Samuel Paty, un ouvrage excellent où des différentes personnes, des personnalités parlaient d'un prof qui a sauvé leur vie, enfin qui les avait bouleversés pour leur orientation, leur ouverture d'esprit, etc. Moi j'ai cherché, j'ai pas eu de profs qui ont joué ce rôle. Et je me suis dit quand même, il faut que je sois dans ce bouquin parce que c'est une cause sympa. Et je me suis dit, bah, c'est moi. Moi, j'ai sauvé ma propre vie.
Vous êtes auto-sauvé.
Prof. Et en même temps, c'était à double sens. C'est le prof qui va passer d'une estrade à une autre, un peu plus grande, si vous voulez, qui va mettre sa fantaisie, qui était sa passion, au service peut-être d'autres choses, mais dans le fond, c'est à peu près ce matin, le même boulot.
Ce matin, avec deux journalistes de la chaîne parlementaire, on comparait l'Assemblée nationale et le travail qu'on peut y faire aujourd'hui dans cette mandature, et il y a une dizaine d'années, puis une vingtaine, puis une trentaine. Vous dites, Albert, quand vous regardez l'école que vous avez connue et l'école de la République d'aujourd'hui, vous dites qu'elle est devenue élitiste.
Non, elle était toujours. Hein, il suffit d'avoir lu Bourdieu pour s'en rendre compte, les héritiers notamment. C'est-à-dire, c'est une transmission des savoirs.
Bourdieu
mais
disait
c'est,
ça,
mais c'est aussi la reproduction des inégalités.
L'ascenseur social fonctionnait.
Non, il fonctionnait lentement. Et c'est bien pour ça que Bourdieu avait fait ses travaux et ses recherches. Mais bon, là, on est très, très sérieux. Et moi, j'essayais à ma manière de monter, non pas le niveau, mais d'ouvrir l'esprit des élèves à d'autres choses. Quoi.
Vous savez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il y a une motion de censure qui va être votée, ça parle de retraite. J'ai retrouvé une interview de vous, Florence Sestac, il y a 10 ans, à l'Express en 2013, vous avez dit « je touche une retraite ridicule ». Est-ce que ça s'est amélioré ?
Ah, du tout. Non, c'est à vie, la retraite ridicule maintenant.
Ah oui, donc heureusement que vous faites des livres qui se vendent.
Ben oui, voilà. Oui.
Et ça marche. Non, ça marche bien quand même, non ?
Oui, mais c'est pour ça que je continue, effectivement. Ouais. Je ne peux pas m'arrêter, quoi.
Ah,
mais...
vous êtes obligé de travailler.
Non, je ne suis pas obligé. Non, c'est une passion quand même.
Ah, d'accord.
Et je souhaite mourir le crayon à la main. Voilà.
Oula.
Mais oui.
Non, je ne m'attendais pas à avoir les deux mots dans la même phrase.
Ah, il est saisi, là.
Comment ? Si ça, ce que je ne vous souhaite pas, ça vous arrive demain, cette séquence
non,
va repasser.
Non, pas demain,
hein.
Mais voilà.
Albert Alcou, vous bossez sur quoi en ce moment ? Vous n'arrêtez jamais de travailler. Je vous ai connu, vous aviez tout le temps quelque chose sur le feu, un texte à écrire, un autre à finir,
ouais,
un projet
ouais,
à préparer.
Ça continue. Bah, je continue un petit peu au Canard Enchaîné, la rubrique variété. Et puis, plusieurs scénarios ouais, de cinéma.
Il y avait une chose que j'ai beaucoup aimée. Vous avez publié en 2018 le livre « Les cœurs simples ». Alors d'abord, Albert Alcou, il avait fait œil de verre et jambes de bois. C'est ça
hein. Oui,
c'est
ça, c'était l'encyclopédie, mais hélas, succincte.
Tous les éclopés de l'histoire.
Voilà, des borgnes, des éclopés, des manchots, des cul-de-jatte, de l'histoire, de la littérature, du cinéma, du spectacle, etc.
Et il y en a beaucoup, beaucoup. Et les cœurs simples, ça reprenait les textes des grands auteurs, mais qui concernaient, je vous cite, les idiots, les simplets, les arriérés. Pourquoi ce goût?
Alors, c'était... ces textes-là, des extraits, où des simplets apparaissent de manière fugace ou plus importante. Et chaque texte était illustré par de grands auteurs de BD, dont Florence Sestac. Il y avait Riyad Satouf, il y avait mon ami Cabu, il y avait Charb. C'était pour une association qui organisait des séjours de répit pour des enfants autistes.
Florence Sestac, ma dernière question. Le démon de minuit, vous allez le faire, vous l'avez fait, vous en êtes où?
C'est en train de prendre forme et ça va s'appeler le démon de mamie.
Voilà. Ça se passe dans une maison de retraite
entre autres. Pas que.
Merci beaucoup. Celui-ci s'appelle Le prof qui a sauvé sa vie. Ça sort chez Dargo. Ça raconte l'histoire d'Albert Alcou par Albert Alcou, dessiné et mis en couleur. C'est assez rare pour être signalé.
Elle a beaucoup aidé au scénario
par
aussi.
Florence Sestac elle-même,
il faut
évidemment.
Le dire, hein,
elle est autrice. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Nous, on se retrouve demain à 9h sur Europe 1. Demain, ce sera la 800e de Culture Média, nos invités Guy Lagache pour son nouveau programme. Il revient à la télé, Guy Lagache, Terre d'urgence dans lequel il va à la rencontre de peuples qui luttent contre le réchauffement climatique. Et puis l'étoile montante du cinéma français, c'est la comédienne Rebecca Marder pour un thriller politique. Il s'appelle De grandes espérances. Julia Vignali, Mélanie Gomez nous ont rejoints dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes très très sage comme deux écolières.
Bah oui,
parfaitement disciplinées.
Et pourtant, nous allons parler d'un sujet non pas coquin, mais...
Intime.
Ouais. Est-ce que vous êtes pudique? Voilà, c'est la question qu'on va vous poser. Est-ce qu'on ne ferait pas tous mieux de vivre nu ou à poil, comme on dit
Vaut mieux pas.
Apparemment, c'est de plus en plus tendance chez les millennials.
Ah oui, les jeunes,
les jeunes s'y mettent de plus en
c'est
plus.
Vrai.
Donc on va en parler et parler de notre rapport au corps.
On vous écoute et nous, on se retrouve demain à 9h sur Europe 1. Salut Anissa, salut Albert,
salut
Florence.
Philippe,
bonne journée.